Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ils n'ont pas de Dalai Lama ni de jeunes moines vêtus de rouge profond, mais ils sont devenus aussi persécutés que les Tibétains en Chine et à l'extérieur de la Chine. Déjà, ils sont musulmans, ce qui ne plaide pas en leur faveur par les temps qui courent, hélas. En plus, à force d'être réprimés, la résistance ouïghour s'est islamo-radicalisée, pour une petite partie en tout cas. Depuis les émeutes de 2009, contre la colonisation et pour l'autonomie de cette région du Xinjiang, qui ont fait 156 morts, l'étau s'est resserré autour des Ouïghours. Des milliers d'entre eux ont été interpellés, un couvre-feu a été instauré, des mosquées fermées. Certains ont alors rejoint le parti islamiste du Turkestan, qui appelle aux attentats contre la Chine, d'autres l'Afghanistan, le Pakistan ou encore l'État islamique. En 2014, une attaque au couteau dans une gare de la région du Yunnan a fait 31 morts et elle a été attribuée aux Ouïghours. Cette date a marqué un tournant et déclenché ce que le gouvernement chinois a appelé une guerre contre le terrorisme. En 2017, cette guerre est passée dans sa phase de rééducation et de concentration. D'après le chercheur allemand Adrian Zenz, cité par Libération, il y aurait aujourd'hui entre 500 000 et 1 million de personnes internées dans des camps, des Ouïghours surtout et aussi des Kazakhs. Tout est devenu suspect dans cette région désertique à l'extrême nord-ouest de la Chine. Les barbes trop longues, les voiles et les vêtements trop couvrants sont devenus interdits. Tous les propriétaires de voitures sont supposés installer un GPS parce que c'est bien connu, les terroristes se déplacent en voiture, je cite. Depuis les années 90, Pékin s'est également lancé dans une politique massive de colonisation de la région par les Han, l'ethnie majoritaire en Chine. Les Ouïghours ne sont plus aujourd'hui que 46% environ de la population. Et puis, le fond de l'affaire, en plus des enjeux religieux et géopolitiques, c'est que la région regorge de pétrole, de gaz naturel, de charbon et d'uranium. Persécutés donc, ubi et orbi, les Ouïghours le sont jusqu'en bas de chez vous, en France, où ils sont venus se réfugier ou vivre tout simplement. Ceux que vous entendrez vivent désormais en exil devenu forcé, car ils sont maintenant considérés comme des ennemis du régime. Ils ont évidemment préféré rester anonymes au micro d'Alain Lefkovitch, tout de suite dans Les Pieds sur Terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Gulimar, j'ai 26 ans. Je suis chef de produit pour une marque de joaillerie à Paris. Alors, je suis arrivée en 2006 à Paris par un regroupement familial. Donc, mon père était arrivé en 2002 ici. Et ma mère, ma petite sœur et moi, on l'a rejoint en 2006. Je suis Ouïghour, voilà, d'origine chinoise. Alors, quand nous sommes arrivés, mon père était déjà réfugié politique à l'époque. Il n'est pas revenu parce que, étant réfugié politique, il aurait pu avoir des problèmes en Chine. La première semaine de notre arrivée, je m'en souviens encore, et il disait pas les Chinois, ou il disait pas les Han. Lui, il disait les Kitai. Donc, c'est une appellation assez ancienne de cette ethnie Han, mais qui sonne assez mauvais chez nous. Quand on est arrivé en France en 2006, quelques semaines après, mon père m'a fait écouter un livre audio. C'était un auteur ouïghour qui avait écrit une œuvre qui s'appelait Le Pigeon Sauvage, qui a été interdit là-bas, et l'auteur a été tué en Chine. C'était comme une nouvelle, un petit roman en fait, comme les fables de La Fontaine. Et ça parlait des pigeons, donc il y avait un pigeon sauvage et il y avait toute une troupe de pigeons classiques. Et le pigeon sauvage voulait s'échapper et les autres disaient « mais pourquoi il veut partir alors qu'il a à manger, il a à boire ici, il est tranquille, pourquoi il veut partir ?» Et finalement, le pigeon sauvage, je ne me souviens plus beaucoup de la fin, mais je crois qu'il finit par partir. Et ma mère m'a demandé, du coup, ça te dit rien tout ça et tout? Ça te fait penser à quoi? J'ai dit, bah rien, c'est un truc classique, pourquoi vous ne me faites pas écouter quelque chose de plus intéressant? Et mon père a rigolé en disant, ça c'est les Ouïghours. Le pigeon sauvage, c'est les Ouïghours. Et les pigeons, la bande de pigeons blancs domestiques, c'est les Chinois, donc, et le gouvernement chinois. Ça, tu y penseras plus tard, on aura le temps d'en discuter. Et finalement, j'ai découvert qui j'étais une fois sortie de la Chine. Et un souvenir que j'ai quand je suis arrivée en France, ma prof d'histoire, à l'époque, connaissait les Ouïghours. Donc elle a arrêté les cours pendant quelques minutes. Et elle m'a présentée à la classe entière en disant que moi, j'étais pas comme les autres Chinois et que j'étais Ouïghour. Et que c'était une ethnie. En Chine, il y avait 56 ethnies. Tout ça, donc après elle s'est adressée à moi en me demandant de citer à toute la classe trois rois ouïghours que je connaissais, parce qu'on avait eu des très très grands royaumes il y a longtemps, et moi j'ai été incapable de citer quoi que ce soit. J'ai cité Qin Shi Huang que je connaissais, j'ai cité Mao Zedong. Elle m'a dit non, ça c'est pas des Ouïghours, tu me cites des dirigeants chinois, c'est pas la même chose. Et j'ai commencé à pleurer, donc elle a arrêté les cours, elle m'a fait sortir, elle m'a dit t'inquiète pas, c'était pas du tout pour te blesser, je savais pas que tu ne connaissais pas. Et là ça a été tellement un choc que j'ai appelé ma tante qui était dans la ville de Urumqi en Chine. Je lui ai dit de m'envoyer des livres. Je lui ai dit, maintenant tu m'envoies des vrais romans pour les adultes. Je veux des romans historiques sur l'histoire des Ouïghours. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la culture que j'avais. Et j'ai commencé à comprendre à quel point on était différents. Voilà, donc nous on est restés réfugiés politiques. Mon père a été naturalisé en 2012, et avec ma sœur, donc qui était mineure à l'époque, et moi j'ai été naturalisée en 2016. Et ma mère a souhaité rester citoyenne chinoise pour au cas où s'il y a des décès ou d'autres événements assez graves en Chine, elle aura pas besoin de demander le visa pour y retourner, donc au moins quelqu'un de la famille pourra y aller. En novembre 2016, elle a été appelée par son ex-patron en disant qu'elle n'avait plus besoin de demander un congé. Sa demande de retraite anticipée a été acceptée, donc il faut qu'elle vienne signer des papiers. Et elle a été harcelée en fait pendant quelques jours par son ex-patron en disant qu'il faut absolument qu'elle vienne. Et mon père et moi, on a été très naïfs à lui dire « Vas-y, toi, au moins, tu peux aller voir la famille quand tu veux. Vas-y, c'est pas grave, tu resteras juste 2 semaines. » Elle est retournée, donc elle a pris ses billets d'avion. Elle était censée revenir à Paris le 10 décembre 2016. Le lendemain de son arrivée dans la ville de Karamay, elle est partie voir son ex-patron. Et quand elle est arrivée au bureau, il y avait déjà les gendarmes. Donc ils l'ont arrêtée sur le champ, et ils l'ont mise en garde à vue 24 heures. Ils ont confisqué son passeport. Quand elle a été relâchée du poste de commissariat, elle m'a appelée, elle pleurait, elle m'engueulait en disant « Mais pourquoi t'as été dans des manifestations ouïghours? Je te disais que de ne pas y aller, pourquoi t'as été là-bas? Ils m'ont montré une photo de toi et ta petite sœur, t'étais encore petite. On voit que sur la photo, c'était il y a très longtemps, pourquoi t'as été là-bas ?» En fait, elle m'engueulait au téléphone pour que les autorités chinoises l'entendent, je pense. Mais je lui ai dit, mais moi je sais pas, c'est pas moi sur la photo, qu'est-ce que tu racontes, j'ai jamais été dans ce genre de choses. Et elle m'a dit, j'ai eu très très peur, ils ont confisqué mon passeport, j'espère vraiment que je vais pouvoir rentrer avant que mon billet de retour soit annulé. Pendant un mois à peu près, on est resté en contact. Le 31 janvier 2017, il y avait le mariage d'une très bonne amie à moi dans la ville de Karamay. Et ma mère, entre-temps, était partie à Urumqi et elle est retournée à Karamay par avion le 30 janvier 2017, la veille du mariage, et elle a été arrêtée à l'aéroport. Mon dernier SMS à elle date de ce jour. Je lui dis, alors c'est bien demain le mariage, t'es partie là-bas, tu m'as pas montré ce que t'as acheté. Et elle m'a pas répondu. Donc le message a été transféré, vous savez, sur iPhone. Voilà, c'est juste envoyé et il n'y a pas le lu. Jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas le lu. Et depuis ce jour, on n'a plus entendu sa voix. On a des nouvelles d'elle, mais on n'a plus entendu sa voix, voilà, sa vraie voix, elle. Jusqu'en août ou septembre 2017, on a reçu un courrier officiel de l'ambassade de France en Chine en nous disant que ma mère a bien été arrêtée le 30 janvier 2017 à l'aéroport et elle a intégré un camp de rééducation le 9 juin 2017. Et ils disent qu'elle sera en rééducation dans ce camp-là jusqu'à la fin de l'enquête. Donc on ne sait pas de quelle enquête il s'agit. L'ambassade de France est incapable de savoir de quoi il s'agit. Quelle enquête ? Voilà, du moment où elle a été arrêtée jusqu'au moment où elle a intégré un camp de rééducation, on ne sait pas ce qui s'est passé. On pense vraiment qu'elle a été torturée, elle a été interrogée dans une prison. Début 2017, j'ai eu des nouvelles. Il y a eu des nouvelles sur ces camps de rééducation qui ont commencé à courir. Moi, j'en ai parlé tout de suite au consul adjoint de Pékin. Je lui ai dit, mais écoutez, apparemment, tout le monde est en train d'être rééduqué. Le discours officiel dit que la rééducation peut durer de un mois jusqu'à 6 mois. Et si elle fait les 6 mois, à l'époque, je lui disais, c'est pas possible, elle va pas tenir, elle est partie là-bas avec des vêtements d'hiver, juste quelques vêtements, comment elle fait? Et aussi parce que ma mère a des problèmes de santé, donc elle a été opérée 2 fois ici. Elle a aussi une hypertension, donc elle est obligée de prendre des cachets tous les jours. Et sachant qu'elle partait pour 2 semaines, elle n'avait pas pris assez de cachets. Bon, ça va faire presque 2 ans qu'elle est en Chine maintenant. Et le consul adjoint m'a toujours dit, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose à part relancer les autorités chinoises. Mais vous savez comment ça marche ici, ils sont très lents pour répondre. Mais si la Chine veut rééduquer ses citoyens, ils ont tous les droits. Si elle est ressortissante chinoise, elle ne peut pas profiter de la protection consulaire, en fait. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, en fait, elle est là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, elle est là-bas. Et malheureusement, ma mère, elle n'a rien fait. Elle paye le prix pour des petites erreurs, si je puis dire, pour le gouvernement chinois. Et ma mère, elle a payé le prix fort, en fait, pour nous. Malheureusement. Finalement, ça s'est juste empiré. C'est parti crescendo. Jusqu'à maintenant, on peut plus rien contrôler, quoi. On sait pas. On a de très gros doutes sur sa santé mentale et physique à ma mère. C'est de pire en pire, en fait, maintenant. On estime à 3 millions le nombre de personnes internées. 3 millions. Donc, ils nous embêtent pas ici, nous, personnellement, mais je pense qu'on fait partie des personnes surveillées très, très fortement. Même chez nous, on a très peur de parler parce qu'à chaque fois, les propos qu'on peut donner sont repris par les gouvernements chinois. Donc ça prouve qu'il y a des espions. Il y a des espions et ils font pression par tous les moyens. Par tous les moyens. C'est dingue. Et le consul adjoint, il m'a dit, si jamais vous venez en Chine, même si vous venez avec un passeport français, et que vous êtes naturalisée française, pour les autorités chinoises, ils peuvent très bien, dans la situation actuelle, dire que vous êtes chinoise et qu'ils ont tous les droits de vous arrêter. J'ai dit, mais vous savez que je suis française, donc vous devez me protéger. Ils ont dit, non, mais on va faire ce qu'il faut, mais ça peut juste être embêtant. Je ne vous garantis pas qu'on réussira à tous les coups. Là, du coup, je ne peux plus faire confiance à qui que ce soit, en fait.
Mon nom, c'est un secret. c'est dangereux de donner mon nom parce que je trouve que les espionnages chinois me suivent ici. Et aussi, ils peuvent menacer ma famille en Chine. Je ne suis pas chinois, je suis ouïghour. En fait, je pense que les Ouïghours sont une nation. En fait, nous avions un pays indépendant. On était colonisé par le gouvernement chinois. C'est pour ça que je ne dis pas je suis chinois. Je suis Ouïghour. Je viens de Turkestan oriental. Je viens en France il y a un an. Parce qu'il y a deux ans, depuis 2016, Urumqi était très dangereux. On ne peut pas vivre normal parce que les policiers toujours menaçaient des Ouïghours. Par exemple, si on n'avait pas de carte d'identité, on ne peut pas sortir. Ça sera trouvé de problème. Il faut entrer à la gendarmerie, au commissariat, sans raison. Moi, peut-être j'ai déjà montré 2000 fois ma carte d'identité. Et à Pékin, je suis surveillé par les espionnages chinois. J'ai trouvé un appartement, mais chaque semaine ou deux semaines, les policiers vont entrer chez moi pour me voir et aussi pour regarder mon téléphone un petit peu. Ou mon ordi, comme ça. Presque tout le temps, comme ça, on ne peut pas bien rencontrer avec les amis, s'amuser la vie. Tout le temps dérangé par la police. Il faut bien vivre, il faut s'envoler de pays. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir, avoir un visa. Parce que les Ouïghours disaient qu'en France, c'est sauf pour moi. Pas dangereux. Mais je trouve pas. Ici aussi, beaucoup de Chinois qui sont très dangereux pour moi. Le gouvernement chinois peut donner l'argent aux Chinois pour trouver des informations sur moi. Parce que depuis cette année, depuis avril, j'ai fait quelques manifestations. Protester contre le gouvernement chinois.
Et alors votre famille, elle est restée là-bas ?
Ma famille reste à Urumqi. Mes parents sont à la retraite déjà. C'est pour ça qu'ils sont tranquilles un petit peu. Mais des fois, mes parents ne veulent pas parler avec moi sur WeChat. Ils disaient qu'il faut arrêter de parler pendant quelques jours. Je dis juste bonjour, bonsoir, tu as mangé, quoi de neuf comme ça, juste quelques trucs. Et c'est interdit de dire assalamu alaikum sur WeChat. Pour dire au revoir, on dit Allah Ramanet, mais maintenant on dit Amanet, on ne dit pas Allah. Les Ouïghours ne peuvent pas aller aux pays étrangers. Tout d'abord c'était 26 pays, c'est interdit, mais maintenant c'est tous les pays, c'est interdit. Il ne faut pas s'habiller des chapeaux traditionnels de Ouïghour. Par exemple, il ne faut pas avoir des moustaches. Il ne faut pas aller à mosquée. C'est bien écrit sur la liste.
En 2011, en avril, j'ai quitté le pays parce que là-bas, j'ai vécu une vie difficile parce qu'il y a toujours des discriminations contre les Ouïghours. J'ai bien compris que même si j'ai bien diplômé de l'université, je ne peux pas trouver un travail correct et puis je serai toujours discriminée par mon identité, parce que je suis Ouïghour, donc j'ai décidé de quitter le pays en avril 2011. Et donc, je suis naturalisée depuis août 2016. Mais je dois rester anonyme parce que la police chinoise, ils peuvent faire la pression pour ma famille. Et ça m'a déjà arrivé en janvier parce que j'ai envoyé un collier. Ils ont fait la pression pour ma famille et ils m'ont interrogé sur le collier. Il y avait juste des trucs cosmétiques et puis quelques médicaments. Et les polices chinois m'ont demandé d'envoyer tous mes documents administratifs en France. Donc, c'est mon contrat de travail, attestation d'employeur, mon contrat d'hébergement. Et si je suis mariée, l'attestation de mariage, tout ça, pour mettre dans leur blacklist, je pense. Et voilà, ils prennent otage ma famille. Si je ne fais pas quelque chose, j'ai peur que... Voilà, ils méprisent ma famille, donc ma mère et mon demi-frère. Dans ma famille, ma mère déjà, elle a fait 2 jours par semaine le cours de rééducation politique dans le centre de ville. Mais ça, c'est pas un camp de rééducation. Mais il peut tout à fait prendre ma mère voilà, pour fermer dans un camp de rééducation ou concentration. Pour moi... le camp de concentration et le camp de rééducation, c'est la même chose. C'est plus joli en entendant le camp de rééducation, mais derrière, les gens morts dedans, les gens sont morts dedans. Et puis, c'est le lavage de cerveau. Il y a torture dedans, donc c'est un prison plus dangereux qu'un prison, en fait. Notre pays, c'était indépendant avant. Et dès qu'ils ont occupé notre pays, ils font tous les mal pour disparaître les peuples et récupérer notre territoire. Donc, je suis en colère. Sur les réseaux sociaux, je vois les Chinois qui disent que nous, les Chinois, ils sont déjà, on est trop gentils avec vous, les Ouïghours, parce qu'on n'a pas vous fermer dans une concentration et tuer avec le gaz toxique. C'est déjà trop gentil avec vous. Je me sens tellement impuissant, en fait, contre le gouvernement chinois. On m'a accusé de faire un crime d'évasion. C'est ma mère qui m'a écrit sur le papier, dans la dernière conversation, crime d'évasion parce que j'ai quitté le pays, je ne suis jamais retournée en Chine.
Et ça, c'est un crime?
Ça, c'est un crime pour eux. Dès que la situation n'est pas améliorée, je ne peux pas voir ma mère. C'est triste, mais que je peux faire? Désolée.
Et vous en parlez avec votre mère de ça, justement?
Oui, dernière fois, quand elle m'a parlé, elle a pleuré. Elle a dit que même si je suis morte, ne reviens jamais ici.
Tu dois pas dire Dieu te bénisse. Vous le savez, dans votre cœur, c'est bon. Ne me demande pas pourquoi. Mes chéris, on vous aime. En fait, à partir 2018, mon dernier appel que ma famille, c'était février, cette année février. Après le février, mais j'ai pas appelé parce que ma mère, elle m'a écrit, elle m'a envoyé un message par WeChat. Si t'as pas de choses très importantes, tu m'appelles plus. Donc depuis février, je suis pas appelé chez moi. Je peux pas vous donner mon nom, mais je suis étudiant en France. J'habite en France depuis 2011, ça fait 7 ans et demi, presque 8 ans.
Alors vous êtes Ouïghour?
Oui, je suis Ouïghour, oui. Je suis né en France, ça dépend de ma femme. En fait, ma femme, elle était ici. Elle m'a proposé venir en France, donc je suis venu en France. Les policiers chinois, ils ont cherché mon adresse, qui j'habite en France, quel bâtiment, quel étage, à quelle rue. Ils ont besoin de mon pièce d'identité, ils ont besoin de mon carte étudiant. 2-3 fois, ma mère, elle m'a envoyé un message. Elle m'a écrit, j'ai besoin de ton photo, c'est pour la police. Mais j'ai envoyé les photos comme normal, photos sur la vie. Donc ma mère, elle m'a écrit encore, elle m'a dit, c'est pas photo comme ça, il faut faire le photo profil. et après le profil, et après c'est comment dire,
le face,
ouais. Et j'ai dit bonjour maman, il est déjà 2h du matin ici, je vous envoie demain matin. Je crois qu'ils ont besoin de photos de moi comme un criminel sur la télé, on a vu se tenir droite, regarder droite et devant. Mais si je refuse d'envoyer documents, j'ai peur qu'ils ont cherché le problème avec ma mère ou mon père. Donc je ne peux pas refuser. Je n'ai pas de choix en fait.
Et alors, il y a beaucoup de gens de votre famille qui ont déjà été internés dans des camps de rééducation.
Mon père, il ne peut pas dire directement qu'il y a quelqu'un qui est dans la prison. Mais j'ai demandé toujours mes cousins, mes frères. Je demandais le nom. Ma mère, elle a dit non, il n'est pas là. Et après, par exemple, je dis Ali, il est là. Ma mère, elle a dit non, il n'est pas là. Je dis Mohamed, il est là. Ma mère, elle a dit non, il est là aussi, il n'est pas là. Donc, la dernière fois, je comptais à peu près 15 personnes de ma famille. Mais ils ont déjà arrêté par la rééducation camp ou la prison.
Vous avez peur?
Ah oui, bien sûr. Ouais, j'ai peur. J'ai peur qu'ils ont contrôlé mes parents. J'ai peur qu'ils ont contrôlé moi. Donc... Je suis vivant dans une ville très horrible. Mais j'ai peur que ma mère, elle m'a envoyé un jour, elle m'a envoyé un message. Elle a dit, il y a quelqu'un, ton père, ou il y a quelqu'un, ils ont arrêté, ou blablabla. J'ai peur que ça. Toujours, je suis peur.
La persécution des Ouïghours, c'était un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Cécile Lafont. Merci à tous les témoins qui ont accepté de nous parler. Merci également à Marie Holtzmann et à Dilnur Rehan. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, c'est notre stagiaire.